voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Soyez les bienvenus, les voisins, les voisines. Je suis ravie d'être avec vous pour toute la semaine et on va commencer dans la rue aux côtés des femmes. Elles se font toutes petites, presque invisibles, mais elles existent bien en France. Près de 40% des personnes sans-abri sont des femmes et à Paris, on les estime à 7000. Chacune a son histoire, chacune a son parcours de vie. Mais comment survivre dans la rue? Anne Lorient a 48 ans, on peut le dire, 2 fils, elle a passé 17 ans dans la rue et elle publie son témoignage très poignant dans un livre coécrit avec Minou Azoulay, Mes années barbares, ça s'appelle, et c'est aux éditions de La Martinière. En fait, ce livre raconte 2 histoires. Il y a la première, donc, qui est un inceste qui a vraiment broyé la vie de Anne, et la seconde qui se déroule dans la rue, dans ce monde qu'on a du mal à imaginer et pourtant qu'on croise tous les jours. Anne Lorient et Minou Azoulay sont donc avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Oh, un beau cœur. Les deux pour commencer. Également avec nous, Claire Lajeuny. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur d'un documentaire, Femmes Invisibles, qu'on a pu voir, c'était sur France 5, donc en octobre dernier. Et un livre également, donc, que vous avez écrit pour prolonger ce documentaire. Ça s'appelle Sur la route des invisibles, aux éditions Michalon. Et donc là, vous avez suivi 5 femmes qui ont bien voulu témoigner sous votre caméra. Et on s'aperçoit à quel point c'est encore plus dur que pour un homme. Les voisins, les voisines, l'antenne vous est ouverte. On attend vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Il y a déjà beaucoup de messages qui arrivent sur Facebook. Beaucoup d'encouragement aussi pour vous, Anne. Il y a Martin de N'Djamena qui dit que parler de sa propre survie dans la rue doit demander beaucoup, beaucoup de courage. Donc, il est là aussi, ils sont près de vous. Et d'ailleurs, il s'interroge, je ne sais pas si on peut appeler ça une vie. Vous allez nous dire, effectivement, vous allez nous raconter tout ce parcours. Pierre de Lubumbashi qui se demande quelle leçon aussi Anne peut-elle nous donner aujourd'hui après cette terrible expérience. Il y a Carole aussi de Ouagadougou qui nous dit l'inceste existe malheureusement partout, mais avec l'aide de bonnes personnes, on peut toujours se reconstruire, mais difficilement. C'est dans la deuxième partie de l'émission, vous nous raconterez effectivement comment vous avez surmonté tout ça. Où est-ce que vous êtes allé puiser cette force, ce courage? On attend vos messages, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Mes années barbares, c'est donc le récit de la vie d'Anne Lorient qui paraît chez La Martinière. Qu'est-ce qui vous a vraiment décidé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous raconter, à raconter cette histoire dans ce livre?
Ben, j'avais besoin de extérioriser tout ce que j'avais vécu pour pouvoir avancer et tourner la page. J'ai besoin de changer de vie. Et, je suis à la moitié de ma vie. Je vais avoir bientôt 50 ans. Et j'aimerais bien que la seconde moitié de ma vie soit la meilleure.
Et donc, vous avez éprouvé d'écrire. Est-ce que ce livre fait partie de... Est-ce qu'un livre peut sauver? Est-ce que ça vous a sauvé?
Je ne sais pas si ça peut sauver. En tout cas, écrire, ça peut beaucoup aider. C'est thérapeutique. Après, faut trouver la bonne personne avec qui l'écrire. Sinon, ça sert à rien, ça reste dans un tiroir. Mmh. Mais en tout cas, ça donne des opportunités de rencontres, de faire des choses, de venir à la radio, etc. Ce que je n'aurais pas pu faire en restant sur mon trottoir.
Mmh. Femme invisible, hein, c'est aussi le titre. Voilà. Effectivement, c'est un mot qui vous
parle. Ça me parle énormément, évidemment.
Alors, aider aussi celles qui sont restées dans la rue, hein, vous dites, ça vous aide vous, ça peut aider aussi les autres, car vous avez réussi donc à en sortir, hein, vous nous raconterez mm-hmm. comment, après 17 ans d'une vie très précaire. La rue, vous diriez que c'est encore plus difficile pour une femme que pour un homme?
C'est difficile pour les deux, il faut que ça soit clair, c'est difficile pour les deux. Maintenant, les femmes sont plus fragiles, elles ont un corps qui est très demandé, mais un homme, c'est très difficile aussi. Ils ont peut-être moins de force, les hommes, moins de force psychique. Je pense que les femmes sont plus fortes psychologiquement. Après, bon, faut quand même garder de la force, faut pas se droguer, faut pas boire de l'alcool, il faut avoir aucune addiction pour garder la tête froide. C'est ça le plus important.
Vous parlez beaucoup de la violence, hein, dans votre livre. Oui. La violence, c'est tous les jours, tous les jours, tous les
oui,
jours.
Oui, tous les jours, toutes les heures.
Alors moi, j'ai découvert, par exemple, je ne savais pas du tout, en fait, que quand vous faites la manche, le trottoir appartient à un homme. Il y a une vraie mafia dans la rue.
Oui.
Vous pouvez nous raconter donc, comment ça se passe?
En fait, moi je parle de Paris, mais je sais que c'est la même chose à Toulouse et à Marseille. Après, les autres, je connais pas, mais chaque trottoir appartient à des gens de l'Est, en général. Et si vous voulez vous asseoir pour faire la manche sur un trottoir, il faut d'abord donner... Enfin, on va s'asseoir et on va voir des gens qui vont arriver en nous demandant « Est-ce que tu as demandé la permission? Est-ce que tu as eu ton droit ?» Alors tu dis mais de quoi tu parles, enfin voilà, pourquoi
le trottoir est à
tout le monde? Et ben non, pas du tout. Donc ils prennent un pourcentage sur la manche qu'on reçoit et en général le droit c'est le viol, c'est-à-dire que si vous voulez être avec un bon endroit pour faire devant un supermarché ou devant un endroit touristique parce que c'est là que les gens donnent le plus, ben là il faut se faire violer 2-3 fois dans la journée pour avoir droit.
Et donc vous avez subi tout ça?
Oui.
Et ça a commencé, c'est comme ça qu'on le comprend aussi dans votre livre, en fait ça a commencé très jeune, puisque votre corps déjà, il a été bafoué par voilà. Votre frère.
Ben moi j'ai commencé à 6 ans, parce que mon frère m'a violée quand j'étais petite. Donc c'est vrai qu'après j'ai un rapport à la sexualité et au corps qui est complètement déformé par rapport aux gens. Donc moi un viol dans la rue, à la limite, ça me choque pas. Parce que je sais que c'est la règle, etc. Alors que quand on parle de viol, tout le monde est super horrifié. Mais voilà. Bon, après, c'est mon histoire et c'est pas facile.
Oui, vous étiez un peu la chose hein, de votre frère et même
ouais,
de ses
amis,
copains,
ouais,
de
ouais.
ses potes.
Ils me vendaient pour des bonbons. Voilà.
Et vous n'avez jamais rien osé dire?
Je suis issue d'un milieu où c'est très tabou la sexualité et je savais que si j'ai parlé, on n'allait pas me croire et en plus mon frère me faisait des menaces et voilà. Et donc j'avais pas le choix de me taire.
Et votre milieu, donc faut le dire quand même, vous avez grandi dans un pavillon, une famille bien née. Enfin, votre père est libraire, votre mère elle est alcoolique, votre mère elle disjoncte hein, carrément. Enfin, on voit qu'elle est ailleurs. Enfin, elle est pas du tout là avec vous. C'est une famille et vous les avez jamais dénoncés.
Ben non, c'est la famille. Ça reste une famille quoi qu'il se passe quoi. Voilà.
Et votre frère aujourd'hui?
Ben, il va bien.
Il a une belle vie.
Il a une très belle vie. Beaucoup plus belle que la mienne, ça c'est clair.
Il court toujours.
Il court toujours.
D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un pseudo, que vous ne voulez pas apparaître
oui, je me
en
cache
caméra
un petit peu,
ou autre,
oui,
vous cachez.
Là, on m'a demandé que ça ne soit pas filmé. Oui, j'ai un pseudo. Ma famille n'est pas du tout au courant de toutes ces démarches-là, de tout mon livre et tout ça. Donc...
Qu'est-ce qui vous retient, au fond?
La peur. La peur. La peur. La peur de mon frère. Oui, mon frère me fait extrêmement peur.
Mina Azoulay, donc vous avez coécrit le livre avec Minou Azoulay, vous avez coécrit le livre avec Anne Lorient. On dit souvent donc que les rencontres ne se font pas au hasard. Comment ça s'est passé entre toutes les deux?
J'ai tout simplement rencontré Anne lors d'un colloque que j'animais sur des violences faites aux femmes. Et quand elle a pris le micro pour parler, elle avait du mal à sortir les mots. Et donc, je sentais que c'était une histoire énorme qui était retenue. On s'est revus pour des photos. Et puis, après, je lui ai proposé si elle avait envie de raconter cette histoire. Et elle a accepté. Voilà, c'était tout mûr. Tout était mûr en elle. Et donc, elle écrivait des textes. On a échangé des textes. Après, surtout, on complétait avec beaucoup d'interviews. Parce que... C'était un peu confus, c'était plus un cri qu'une écriture. Et donc, voilà, ça lui a permis, elle aussi, moi j'en ai pris plein la figure, j'avoue, mais elle, ça lui a permis un petit peu d'ordonner les choses dans sa tête, de distinguer des choses qui étaient confuses. Et moi, j'ai découvert un monde parallèle que j'ignorais complètement. Que je voyais sous des fenêtres, parce que quand on est urbain, on voit tout ça, on n'approche pas. Mais ce monde parallèle...
On essaie de se tenir à l'écart. D'ailleurs, j'ai vu que 53% des Français ont peur, ça fait partie de la peur des gens, ont peur de finir clochard, comme on dit.
Oui, c'est un vieux fantasme, c'est sans toi, sans foi ni loi. Mais bon, ce monde existe et on ne peut pas l'ignorer longtemps. Donc à un moment donné, il faut s'y confronter. Bon, moi, je veux dire, ma confrontation, elle est bien protégée quand même. Mais Anne, elle a été protégée de rien, de rien, de rien. Donc ça, je trouve que... Et si les femmes ne savent pas ça, si les femmes ne veulent pas voir ça, voilà, ça fait partie... C'est une partie de l'humanité qui restera la cible de l'autre, quoi.
Et vous avez donc aidé à la... À l'accoucher, presque,
oui,
comment?
Ouais. Oui, absolument. Je pense qu'il y a encore des choses retenues, mais bon, on ne peut pas non plus, il faut laisser autant les choses, du temps au temps pour que les choses s'apaisent. Mais oui, enfin, moi, ça m'a paru une nécessité de dénoncer tout ça, quoi.
Ah, il est lourd, ce sac. Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie? Bonsoir, monsieur, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie, s'il vous plaît?
Merci beaucoup, bonne soirée, madame.
C'est la première fois, au début, j'osais pas. Je demandais pas. Bonsoir, il y a même une fois où j'ai tellement eu honte, j'ai fait une pancarte. Et comme je voulais pas faire une pancarte, aidez-moi, je veux des sous. J'ai dit désolé, j'ai trop honte de demander. Je me suis cachée toute la journée derrière ma... Enfin, pas toute la journée, hein, j'ai vite abandonné en fait. Je crois 2 heures en fait. Et je pleurais derrière en plus. Mais bon, ils ont été généreux les gens. Bonsoir, excusez-moi, vous auriez un petit peu de monnaie pour m'aider? Bonne soirée.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
L'inceste, la rue, la survie, la violence quotidienne, voilà ce qu'ose raconter aujourd'hui Anne Lorient avec Minou Azoulay, donc dans un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Mes années barbares aux éditions de La Martinière. Beaucoup de souffrance tous les jours, c'est ce que partagent aussi les femmes que vous avez filmées, Claire Lajeuny. Donc, vous avez donc fait ce documentaire, Femmes invisibles, on vient d'en entendre un extrait. Vous avez aussi écrit un livre, toujours à partir du témoignage de ces femmes, sur la route des invisibles. C'est ça, c'est de la souffrance, beaucoup beaucoup de souffrance que vous avez filmé.
Pas uniquement en fait, ouais. Le livre c'est aussi c'est pas le livre du documentaire, le livre c'est mon histoire avec ces femmes. C'est-à-dire que à l'inverse d'Anne, elles sont pas toutes en train de faire la manche et donc je les ai rencontrées par différentes branches, différentes voies et du coup ces femmes ne m'ont évidemment pas laissée indifférente parce que j'ai passé presque 6 mois avec elles sans jouer à la SDF bien sûr, hein, je rentrais chez moi tranquillement le soir, mais en revanche c'est des vraies rencontres et j'ai beaucoup rigolé aussi, j'ai rencontré des femmes incroyables et du coup voilà, le livre c'est mon histoire avec ces femmes.
Et alors ces témoignages, c'est vrai que c'est la question aussi qu'on se pose, c'est la question qui reviennent aussi sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe quand on menait une vie normale, on a un foyer, on a des enfants, comment on peut en arriver là, comment tout a basculé?
Ça c'est la question, ça m'a hanté tout le long du film, tout le long de mon écriture sur le livre, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait... Parce qu'elles n'ont pas toutes des histoires de souffrance depuis petite, en fait. Elles ont toutes une rupture, ça c'est certain. À un moment donné de leur vie, une rupture amoureuse, une rupture professionnelle, une rupture familiale, mais qui est difficile en fait à établir. À quel moment j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit « je sais plus depuis combien de temps je suis dans la rue ». C'est-à-dire que moi, j'imaginais qu'elles y étaient depuis 10 ans, mais ça se trouve, elles y étaient depuis 20 ans ou 2 ans. En tout cas, c'est difficile à établir. Et volontairement aussi, elles n'ont pas envie de se souvenir de... Ou elles se souviennent pas, ou elles n'ont pas envie de ça. J'ai du mal à le dire à leur place. Mais en tout cas, on a du mal à savoir ce qui les a fait basculer.
Mais comment vous les avez rencontrées alors? Elles sont pas venues à vous comme ça. Donc comment vous êtes allé les chercher?
Pour celles qui font la manche, c'est assez simple finalement. Hein, on va les voir. Bonjour, je m'appelle Claire, je fais un documentaire. Est-ce qu'on peut aller prendre un café? Je me suis fait beaucoup jeter. Et puis, j'en ai rencontré quelques-unes. Et puis, après, j'ai été voir quelques... Après, en fait, une fois que vous êtes dans cet univers, vous ne voyez que ça, en fait. Moi, j'en vois partout. Je commence le livre en disant ça, j'en vois partout. Et du coup, en fait, une m'a introduit avec une autre. Et du coup, j'ai découvert, en fait, elles ont des places. Les femmes sont près des gares. Je ne sais pas si Anne, vous êtes d'accord avec moi.
Il y en a beaucoup près des gares, mais il y en a un peu
partout.
Mais du coup, enfin, c'est près des endroits où il y a beaucoup de monde qui passe.
Voilà,
que ce soit des gares ou des passages ou des métros.
Donc après, voilà, une m'a présenté une autre. Et puis après, il y a un lieu qui s'appelle la Halte Femmes à Paris, en fait, qui est dédié aux femmes. Mm-hmm. Donc j'étais beaucoup dans cet endroit. Et voilà, j'ai rencontré des femmes. Mais toutes ne font pas la manche, en fait. Mm.
Mais comment vous avez réussi à les faire parler? Parce qu'on sent que c'est un milieu quand même, un monde très tabou, très retenu, où la parole ne circule pas, où on est... Ne dis rien, surtout ne rien dire.
Ça dépend des femmes. Hein. Il y a des femmes qui sont prêtes à parler, qui demandent juste qu'on leur donne la parole.
Il y en a d'autres, comme vous dites, qui sont un peu plus perdus dans le temps, dans les lieux, etc. Même moi, j'avais du mal au début du livre à remettre tout dans l'ordre. Je donnais tout à Minou dans le désordre. Je disais, on verra après. Mais il fallait que ça sorte. Mais on savait plus si c'était avant, après, voilà.
Oui, parce qu'il y a une perte totale des repères.
Exactement. Tous les repères que vous avez vous dans le monde normal, entre guillemets, nous on les a pas. Nous on est pour le temps, on se réveille avec le soleil, on se couche avec le soleil. Donc à 6 heures, à partir de 18h, 19h, vous voyez, tous les EDF, ils dorment. Parce que on est basé sur le soleil. Et puis on se rend pas compte si c'est une année, tout à coup on se dit, tiens, les gens sont en train de faire la fête, c'est peut-être Noël, mais c'est pas sûr. Alors, on voit les vitrines, on voit des choses comme ça, mais les repères sont pas du tout les mêmes.
Et alors, comment elles vivent le regard des autres ou l'absence de regard?
Difficilement, oui, c'est d'où le titre Femme invisible, parce qu'en fait, à la fois, c'est ce que disait Minou, on voit toutes ces femmes au coin de la rue, en train de faire la manche, ou en tout cas, un peu désœuvrées, etc. Mais en même temps, moi, quand j'ai vu les chiffres, je suis tombée des nues. Et en fait, on n'a pas envie de les voir. Ça nous renvoie quelque chose de nos propres angoisses, de plein de choses. Et ça, elles le vivent très mal, parce qu'effectivement, personne ne les regarde, on a peur d'elles. On ose à peine leur donner une pièce, à peine leur demander comment elles s'appellent. Enfin, il y a vraiment
Il y a quelque chose de sauvage aussi, elles ont peur tout le temps.
Je sais pas si c'est de la sauvagerie. Enfin, moi, je trouve que les hommes ont été dans la rue avant les femmes. Et je pense que ce sont les hommes qui nous ont d'abord fait peur, parce qu'ils étaient alcoolisés, parce qu'ils étaient agressifs, parce qu'ils étaient aussi violés pour certains. Et je pense que les femmes qui arrivent maintenant depuis quelques années dans la rue, elles sont juste aussi apeurées que nous.
Oui, je crois vraiment que c'est un choix d'être invisible aussi. Enfin, c'est pas seulement une peur, c'est aussi un choix, parce que être invisible, ça veut dire aussi ne pas être à la merci des hommes. Donc, surtout quand on est une maman, par exemple, il y a quand même beaucoup d'enfants dans la rue. Je crois qu'il y a 30 000 enfants dans la rue. Donc déjà, nous, qu'est-ce qu'on se protège, nous, mais on protège nos enfants, surtout si on a des petites filles, quoi. Donc, être invisible, c'est un choix. C'est-à-dire que on sait, mais par contre, on sait qu'il y a une maraude qui va passer à telle heure, à peu près.
Qu'est-ce que vous appelez une maraude?
Alors, une maraude, ce sont des gens civils, ce qu'on appelle ça, nous, civils, qui viennent apporter à manger ou des soins médicaux ou des soins psychologiques, etc. Et en tant que femme, on a des besoins. Par exemple, je vais rentrer dans le détail, mais par exemple, quand on a nos règles et tout ça, on a besoin des maraudes, on a besoin d'aide. Et donc, on sait à quelle heure elles passent. Donc là, on va sortir et là, on va devenir visible.
Mais on est quand pas... vous en avez besoin,
voilà.
En fait.
En fait, c'est vraiment étudié. Mais c'est comme toutes les mamans du monde. Je veux dire, vous avez besoin de nourrir votre enfant. Vous allez sortir de chez vous pour aller faire une course. Ben voilà, nous c'est pareil. On a des enfants dans la rue. On va sortir parce qu'on sait qu'il y a une personne qui va apporter du lait maternisé, un vêtement d'enfant, etc. Et le reste du temps, on est invisible pour les hommes, pour pas se faire attaquer, violer, tout ça.
Et vous vous cachez où?
Ah bah, il y a plein d'endroits, hein, partout, dans des squats, dans des porches, dans des appartements, dans des halls d'appartements, sous les ponts, enfin, il y a partout, dans Paris. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine heure où on les voit plus sortir, les femmes. Moi, je fais beaucoup de maraudes maintenant, parce que maintenant, je suis passée de l'autre côté, et j'en fais. Et je peux dire au conducteur de maraude, bah, tu vas à tel endroit, à telle heure, là, je sais qui aura des gens. Voilà.
Il y a quelque chose, moi aussi, qui m'a troublée, c'est il y a très peu de solidarité entre les femmes, en fait. Elles sont pas en groupe, à l'inverse des hommes, dans la rue. Elles volontairement, justement, pour rester invisibles et rester cachées.
C'est volontairement, parce que si on fait un groupe de femmes, on se retrouve avec un groupe de violeurs. Donc, on s'en sort pas, quoi.
Voilà. Qu'elles sont très, très seules, en fait, volontairement.
On est très isolées.
Même si dans votre documentaire, la première femme qu'on suit, cette jeune femme, le soir, elle essaye de trouver des places dans les parkings. Elle est toujours accompagnée avec un copain.
Voilà, mais ça c'est une forme de protection aussi, en fait. Elles ont des amoureux, des faux amoureux, justement. Mais c'est une façon de, effectivement, de ne pas être seule et de ne pas être une proie.
Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera d'amour aussi. Hein, Anne-Laurien, vous avez aussi rencontré l'amour dans la rue, vous nous raconterez ça. Vous restez avec nous. Comment survivre dans la rue? Comment, Anne Azoulay, beaucoup de questions. Comment vous avez remonté... Ça y est, Anne-Laurien, vous avez remonté la pente. On se retrouve, moi aussi, j'ai perdu mes repères.
C'est la fusion.
On se retrouve dans 3 minutes avec vous, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71, après le flash.
Picon français.
Voulez
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre. De plus en plus de femmes tombent dans l'extrême pauvreté et se retrouvent à la rue. En France, 2 SDF sur 5 sont des femmes. Qui sont-elles? Où se cachent-elles? Quel drame a croisé leur vie? Une tragédie souvent silencieuse, une tragédie honteuse aussi, qui a demandé beaucoup de courage à Anne Lorient pour se raconter à Minou Azoulay dans « Mes années barbares ». C'est un livre qui vient de sortir chez La Martinière, donc elles sont toutes les deux avec nous en direct, et également Claire Lagenie, réalisatrice du documentaire « Femmes invisibles » qu'on a pu voir sur France 5, c'était en octobre l'année dernière. Il y a un livre effectivement où elle raconte comment elle a vécu toutes ces rencontres avec les femmes dans leur quotidien sur la rue. Dans la rue, ça s'appelle « Sur la route des invisibles » aux éditions Michelon. Les voisins, les voisines, vous avez envie de réagir, on attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur nos pages Facebook.
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Tu vas en faire quoi?
Je vais me droguer, hein. Ça nous occupe, ça fait passer le temps, et c'est vrai qu'après, on se fout un peu plus du regard des autres, quoi. Du mépris, de l'ignorance, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler ça, quoi, mais voilà. Mais bon, quand on en arrive là, c'est tellement... On a tellement toutes les portes qui se ferment, même les gens, ils s'en foutent, quoi, de nous. Alors c'est sûr, on va pas leur demander de nous héberger, de nous payer, de nous trouver le travail, machin, mais on se sent comme de la merde, quoi, un peu. Bonsoir, excusez-moi, vous auriez un petit peu de monnaie pour m'aider? Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider?
Extrait du documentaire « Femmes invisibles » donc de Claire Lagenie, 5 témoignages du quotidien de ces femmes. Anne Lorient, ça vous fait réagir, cet extrait?
Qu'en fait, à un moment donné, elle dit « je vais prendre de l'argent pour aller me droguer ». Il faut préciser qu'on n'est pas tous drogués, voilà, c'est tout. Ouais. Après, je comprends que cette jeune femme en a besoin parce qu'elle a cette addiction, mais la plupart des femmes ne sont pas droguées. La plupart des femmes ne boivent pas, la plupart des femmes font ce qu'elles peuvent, mais justement, on sait tous que ces addictions, c'est la fin. C'est la fin de notre vie dans la rue. Si on commence à perdre le contrôle, c'est fini, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours lutté toute ma vie pour ne pas perdre le contrôle. Après, j'ai pu la perdre si on m'a assommé ou des choses comme ça. Mais en tout cas, moi-même, j'ai jamais perdu le contrôle. Et je pense que c'est ça qui m'a fait sortir de la rue. C'est ça qui m'a gardé une petite étincelle pour avoir un espoir, pour être revenu normalement, quoi.
Mais qu'est-ce qui fait que vous avez pu supporter autant de traumatismes, hein? Je vais quand même résumer en deux mots l'inceste de votre frère. Donc pendant des années, hein, ça a duré combien d'années?
12 ans.
12 ans. Les copains qui abusent de vous, vos parents, donc qui font comme si de rien n'était, la fuite donc dans la rue, la violence, à nouveau les viols, votre corps qui vous fait tant souffrir, votre tête aussi, c'est très bouleversant. On se demande, mais est-ce que... Enfin, je me disais, mais c'est pas une vie. Enfin, c'est pas une vie tout ça. C'est aussi le témoignage de Martin. Il dit, je ne sais pas si on peut appeler ça une vie. Donc, comment vous avez pu supporter autant de traumatisme?
Moi, je ne sais pas ce que c'est une vie, en fait. Donc, je ne sais pas ce que c'est la vie normale. Donc, je peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une vie. Donc, je ne sais pas ce que la norme de la vie. Je ne sais pas c'est quoi.
Voilà. Donc ça, vous racontez votre vie, telle que vous l'avez vécue, telle que vous l'avez
traversée. Après, je pense qu'on a tous des vies différentes et qu'on a tous des valeurs de vie différentes, mais une vie, je ne sais pas.
À votre avis, alors, Minou Azoulay, puisque vous la connaissez bien maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle a pu traverser tout ça? Parce qu'à un moment, vous traversez... Il y a aussi une copine à vous qui meurt. Enfin,
j'en ai beaucoup
de femmes qui sont mortes et qui... Ouais.
Je suis une survivante. Il y a beaucoup de... Autour de moi, la mort, elle rôde tout le temps. Voilà.
Moi, je crois que c'est surtout la maternité qui l'a sauvée. Parce que quand elle a eu son premier enfant dans la rue, elle a eu quelqu'un à protéger. Elle a été mère, ce qu'elle n'a jamais connu, puisque sa mère était complètement ailleurs. Elle a eu un deuxième enfant dans la rue. Et là, elle s'est dit, bon, voilà, il y a quelqu'un qui a bougé. Il y a aussi une histoire de rencontre dans la rue. C'est que Anne, malgré tout ce qu'elle a supporté, elle a aussi fait des rencontres. C'est quand même dans la rue qu'elle a rencontré l'homme avec qui elle a eu des enfants. Je veux dire, et c'est peut-être de son absence d'addiction qu'elle est restée vigilante tout le temps.
Oui.
Voilà, elle ne s'est pas laissée mourir. Et au sens figuré comme propre du terme, je crois que depuis qu'elle est mère, elle a cette combativité qui a décuplé et qui fait que voilà, elle a des enfants, elle va les assumer et elle est contente d'être mère et elle n'a pas une vie totalement normale parce qu'elle manque d'argent encore pour la vie de tous les jours, mais elle a une vie correcte.
Est-ce que c'est aussi une manière de se protéger en parlant de votre corps? Vous avez beaucoup 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 grossi.
Oui, bien sûr. En fait, j'ai cru. Je crois que je me suis trompée, mais j'ai atteint les 145 kilos. J'ai cru me faire une carapace en me disant si je grossis, je serai moche, et si je suis moche, je serai pas violée. Ce qui est complètement faux, parce qu'on soit maigre, moche ou grosse, c'est pareil en fait. Mais et depuis que j'ai écrit le livre, j'ai perdu 62 kilos, comme ça, des kilos émotionnels. Donc voilà, donc ça veut tout dire. Ça veut dire que ma carapace, elle commence à descendre. Elle reste encore beaucoup, hein, mais elle commence à descendre. Et mais je pense que grossir, c'est pas une bonne idée. Enfin, moi, je te déconseille aussi, parce qu'après, il y a des conséquences aussi.
Et alors, au milieu de cette vie, de ces horreurs, hein, que vous racontez, vous rencontrez un homme. Racontez cette rencontre, un Chilien, donc qui joue de la musique dans le métro, et c'est l'amour.
Bah, j'ai eu de la chance, oui. Bah, comme quoi tout peut arriver, hein. Parce que j'étais vraiment dégoûtée des hommes, puisque j'étais violée tout le temps. Donc après voilà, donc j'ai rencontré cet homme et qui lui aussi vivait des choses très très dures, et ça nous a rapprochés. Après voilà, on est tombés amoureux comme tout le monde.
Et alors, comment on vit ce rêve de... C'était un rêve de princesse pour vous, hein, quand vous...
Princesse peut-être pas, mais parce que je sais pas ce que c'est, mais un rêve de juste être bien avec un homme, quoi. C'est tout. De pas avoir peur d'un homme. Ça, c'est vraiment plus important. C'est de se retrouver assis à côté d'un homme sans avoir peur. Donc si c'est ça le rêve de princesse, c'est pas mal.
Et lui, il sait vous protéger.
Il essaye. Et c'est pas facile, hein, parce que lui aussi se fait violer, lui aussi se fait attaquer, etc. Mais à deux, on est plus fort. Voilà.
Et là, alors, vous dormez où? Où est-ce que vous vivez ensemble?
Ah ben, on dort dehors, hein. Ça change pas nos vies. C'est juste le fait qu'on soit ensemble, c'est tout. Après, nous, on est jeunes, on a envie de bouger, on est contents, donc on s'amuse, on monte sur les toits de Paris. Voilà, on est à Paris, on s'amuse, mais sinon, on a une vie amoureuse comme tout le monde, voilà. Mais en restant dehors, en restant en vigilance, toujours, etc.
Vous n'êtes plus isolés?
Vous êtes... Je ne suis plus isolée, on est deux, et ça fait vraiment du bien, voilà.
Et donc, bah, vous rencontrez cet homme, et donc vous tombez aussi enceinte, vous avez une vie amoureuse.
Ben voilà, ouais. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'une femme SDF violée tout le temps tombe souvent enceinte, parce qu'on n'a pas de protection médicale dans la rue. Donc, y a énormément de femmes qui font des IVG, moi j'en ai fait beaucoup. Souvent avec les maraudes aussi, justement, on se fait aider pour faire un IVG ou etc. Donc c'est les deux enfants que j'ai eus sont deux enfants de l'amour. C'est sûr, j'ai choisi de les garder parce que je connaissais leur père, parce que c'était un acte d'amour et que c'était pas un viol. Voilà. Donc je suis très fière qu'ils soient là et je suis très fière de les aimer, et eux connaissent leur histoire tous les deux. Donc ils sont très fiers que je les ai pas fait en IVG.
Ils peuvent vous remercier d'être là,
non,
d'être
parce
en vie.
Ils savent, voilà, ils me disent. Mais alors, ça veut dire que si on n'avait pas été là, t'aurais pas eu d'enfant, parce que t'aurais continué, à faire ça.
Mais alors, comment on vit avec un nourrisson dans la rue?
Bah, c'est très très compliqué, hein. Déjà, la grossesse est compliquée parce qu'on n'a pas de suivi de grossesse, on n'est pas suivi par les médecins. Alors là, c'est là qu'a l'avantage des 145 kilos, c'est-à-dire qu'une personne qui a ce poids-là, la grossesse, on ne la voit pas. Donc, à part les nausées, tout ça que j'avais, on ne voyait pas que j'étais enceinte. Par contre, l'accouchement s'est déroulé un mois plus tôt de la date, donc j'ai accouché dans la rue, sur le trottoir. Là, j'étais ramassée par les pompiers, c'est quelqu'un qui a signalé. Et là, donc, on me ramasse par les pompiers, je vais à l'hôpital, on m'aide, etc. Normal. Mais là, on veut me prendre mon enfant, parce que je suis SDF, on veut placer mon enfant. Donc là, qu'est-ce que je fais?
Vous sortez les griffes.
Je sors les griffes, je suis une lionne, comme toutes les mamans lionnes. Et je prends mon enfant et je me casse. Et je suis partie en courant de l'hôpital. Mais vivre avec un nourrisson dans la rue, bon, je lui ai donné le sein, ce qui va être quand même... Je lui ai donné le sein jusqu'à 3 ans et demi. Donc quand même ça aide au niveau voilà. Mais par contre au niveau des vêtements, bah il faut aller voir les associations, il faut faire attention à qui on parle parce que justement ils peuvent vite appeler les gens derrière pour qu'ils soient placés, que l'enfant soit placé, etc.
Parce que vous avez toujours peur en fait qu'on vous retire la garde de
vos enfants. C'est pas une peur, c'est une réalité. Ouais. C'est tous les enfants nés dans la rue sont placés en orphelinat. Donc et moi il n'est pas question. J'ai fait ce choix de l'avoir, je vais pas le mettre en orphelinat. Si c'est c'était pas la peine de le garder, c'était pour faire ça quoi. Donc je me bats. Je suis une lionne et jusqu'à mordre, mais je me bats.
Claire Lajeunie.
Ça me fait réagir parce que c'est très rare en fait cette histoire. C'est moi j'ai passé beaucoup de temps dans la rue et j'ai vu très peu d'enfants dans la rue. Très vite ils sont sortis et bien heureusement pour eux. Et les femmes qui étaient enceintes dans la rue que j'ai rencontrées, en fait elles ont soit volontairement eu envie de placer leur enfant pour les protéger ou en tout cas on leur a pas donné le choix. Et c'est très courageux ce que vous avez fait. En même temps, c'est très risqué. Et c'est un témoignage rare. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui restent dans la rue aussi longtemps, à mon avis. Voilà. Mais moi, j'ai rencontré une femme pour mon documentaire qui s'appelle Katia. Quand je l'ai rencontrée, elle était enceinte de son quatrième enfant. Elle en avait eu trois dans la rue. Trois placés, évidemment, avec des liens encore, mais compliqués. Et puis, effectivement, ce quatrième enfant la sauve aussi. Donc, je pense que c'est assez significatif. Bon, elle a attendu le quatrième, mais quand même, c'est arrivé.
Moi, c'était le deuxième qui m'a sauvé.
Voilà.
Le premier, j'ai fait ce que j'ai pu parce que c'était un peu dans l'ignorance aussi. Hein. Moi, c'est être maman, je savais pas. Hein.
Voilà, c'est ça.
Et comme disait Minou, moi, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence, je sais rien. Donc, d'un coup, on me donne un gamin dans les bras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Mais vraiment, j'étais très déterminée. Par contre, quand j'ai eu mon deuxième enfant, là, j'ai dit, je vais pas recommencer parce que c'est vraiment trop difficile. Et là, j'ai été voir une association et j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur quelqu'un de bien et qui m'a donné un appartement. Mais j'ai eu une chance extrême. Parce qu'on aurait pu me prendre les deux et les placer les deux.
Tous ces goodbyes, c'est Kedledge the Elephant, 7 milliards de voisins. Vous avez beaucoup donné dans ce livre, hein, toutes les femmes aussi qui sont autour de moi, beaucoup de rencontres de femmes dans la rue, c'est le thème aujourd'hui, les voisins, les voisines. Anne, vous avez donc publié Anne Lorient avec Minou Azoulay, le livre Mes années barbares aux éditions de La Martinière. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, vous vous souvenez de beaucoup de détails. Qu'est-ce que vous espérez en fait que le livre déclenche?
Ce que j'aimerais, honnêtement, c'est que mon livre soit un outil pour faire un témoignage, mais aussi donner de l'espoir aux gens, enfin aux femmes, et puis expliquer aux gens comment ça se passe dans la rue, etc. Et moi, mon rêve, c'est de former dans les lycées, de parler de la précarité et de la vie, de la violence, tout ça, dans les lycées, avant que ça arrive à la rue. Voilà. Parce que moi, je pense que si on m'avait tendu la main quand j'étais petite, on m'aurait dit c'est un inceste, etc. Ben, enfin moi, on m'a jamais rien dit. Donc je savais pas à qui m'adresser. Et j'aimerais bien maintenant pouvoir voilà, intervenir pour pouvoir dire au cas où il se passe quelque chose dans votre vie, vous avez droit d'en parler.
Voilà. Donc ce livre donc pour aider aussi les autres, c'est aussi le témoignage de Jocelyne Agoba qui nous dit qu'il y a toujours des histoires qui rendent plus fort, qui redonnent de l'espoir. Et elle, visiblement, elle parle aussi personnellement, mes années marbares à moi sont celles qui m'ont rendue aussi plus forte et j'ai décidé de créer une organisation qui aide les autres, ceux qui vivent la même chose. Parce que vous aussi, vous dites maintenant, vous êtes passé aussi de l'autre côté, vous faites aussi des maraudes, comme j'ai bien compris. Donc vous allez aussi dans la rue, vous aider, vous donner.
Bah, disons que mon expérience peut sûrement aider. Après, je ne sais pas exactement à quel point, ni comment, ni je suis encore en train de chercher le comment. Maintenant, j'aimerais pas que j'ai vécu tout ça pour rien. J'aimerais bien rendre un sens à tout ça. Voilà.
Alors, quelle leçon aussi vous pouvez nous donner? C'est ce que demande Pierre de Lubumbashi après cette terrible expérience. Est-ce qu'il y a une leçon à donner?
Bah, je crois que là, non. Je sais pas.
Il n'y a pas de leçon à tirer de tout ça.
Regardez, je pense. Claire, surtout essayer de les regarder, ces femmes.
Oui,
elles parlent toutes d'avoir une main tendue. Donc la main tendue, c'est déjà moi. Tous les gens qui ont lu mon livre m'ont dit je vais plus dans les parkings de la même façon. Je regarde plus ces femmes de la même façon. Déjà, je pense qu'on gagne un tout petit peu déjà le regard.
Oui, nous aussi, on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent on va voir les SDF différemment. Les femmes, on va plus facilement les voir. Mais après, il faut passer à l'action, parce que c'est pas juste dire bonjour, quoi.
Notre regard va changer forcément sur ces femmes-là. Et je pense qu'il faut... Enfin, moi, c'est pas une leçon que je donne, mais je dis, il vaut mieux offrir un café chaud, parce que ça, c'est Anne qui me le souffle tout le temps, que donner de l'argent, parce que l'argent, elle va chez les hommes. Mais donner un café chaud à une femme, c'est prendre le temps de parler avec elle. Et voilà, commencer à tirer le fil de la pelote.
Il y a une femme qui, Claire Lajoni, une femme qui dit s'être trouvée belle après avoir regardé votre film. Ouais. C'était un beau compliment.
Ouais. Tout à fait, ça m'a beaucoup touchée. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. C'est-à-dire que moi, quand je les ai rencontrées, elles ont vraiment une image d'elles-mêmes absolument affreuse. La féminité est totalement oubliée.
Absolument.
Et quand elles sont venues, je les ai invitées à venir à une avant-première de mon documentaire. Personne n'avait vu aucune image. Je suis allée les chercher une par une, chacune où elles sont. Et elles se sont maquillées dans les toilettes de l'avant-première. Et elles ont regardé le film, elles ont beaucoup pleuré, elles ont rigolé. Et il y en a une qui est sortie en me disant « c'est la première fois que je me trouve belle ». Je trouve que c'est un joli...
Et vous avez gardé un lien avec ces femmes?
Avec toutes, ouais. Certaines ont disparu. Ça a été mon grand problème pendant tout ce film. C'est-à-dire qu'en fait, pas de batterie, pas de téléphone portable, pas d'adresse fixe, pas de rendez-vous. Donc, je les ai perdues longtemps.
C'est le côté sauvage des SDF.
Ouais. Je les ai détestées, je les ai adorées. Mais voilà, au final, j'ai gardé un lien. Certaines sont sorties de la rue, d'autres y sont toujours. Voilà, mais en tout cas, j'ai un lien avec elles que je pense être important et qui va durer.
Aujourd'hui, ça ressemble à quoi une journée de la vie de Anne Lorient?
De ma vie actuelle? Ma vie actuelle, je suis maman, hein, donc c'est comme toutes les mamans, c'est s'occuper des enfants, les devoirs.
Ils sont grands maintenant, quel âge ils ont?
Ils sont grands, ils ont 12 et 15 ans, donc c'est des ados, donc on est dans les problèmes d'ados, dans les crises d'ados. Mais non, ils sont très très mignons. Mais ma vie, c'est surtout faire la promotion du livre en ce moment. Continuer à faire passer des messages, enfin essayer en tout cas, et puis continuer aussi à être sur le terrain et de me trouver un avenir aussi, parce que mon avenir n'est pas encore sécurisé ni rien du tout. Donc
vous vivez dans un logement HLM, oui. Vous avez une pension avec de l'argent.
J'ai une pension d'invalidité due à mes problèmes suite à mes viols, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de peau, de gynéco, etc. Mais ça suffit pas, pour vivre. Donc j'essaye de pas faire la manche, mais quand j'ai pas le choix, j'y vais. Et puis j'essaye de faire plein de petites choses pour m'en sortir. Mais bon, c'est compliqué.
C'est difficile. Vous diriez que vous cherchez un travail?
Je cherche un emploi, bien sûr. Ouais. Mais un emploi qui soit lié à ce milieu-là, parce que je sais pas faire autre chose. je vais pas arriver en tant que secrétaire trilingue, quoi. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est la rue. C'est tout ce que je sais.
Donc, ce que vous disiez, apporter effectivement votre aide, travailler avec des associations qui sont en lien avec les violences
des
femmes.
Mais il faut que je sois rémunérée, parce que toutes les associations sont super intéressées par moi, mais en bénévolat. Le problème, c'est que le bénévolat, ça remplit pas le frigo de mes fils. Donc, il me faut un salaire. Voilà.
Et vos garçons, donc, ils sont allés à l'école.
Oui.
Mmh. Même en étant dans la rue, ils étaient à l'école.
L'aîné, quand on est rentré dans l'appartement, il avait 3 ans et demi. Donc en fait, il est rentré à la maternelle en même temps que nous, on est rentré dans l'appartement. Ce qui a posé énormément de problèmes parce qu'il n'était pas du tout habitué à avoir d'autres enfants. Et il n'était pas du tout habitué à communiquer, puisque moi, depuis 3 ans, je lui disais de se taire, puisqu'il fallait pas qu'on le repère dans la rue.
Mais il fallait qu'il soit invisible aussi.
Exactement, ouais. Il est devenu invisible. Ouais. Donc, à 3 ans, on lui dit tout à coup, tu peux parler. Donc, lui dit, mais je sais pas parler. Donc, je mets pas compte qu'il y a quelque chose que je connais de la rue, c'est la violence. Donc, il a cassé la figure à tous les enfants de l'école pour dire bonjour. Donc, c'était sa manière de dire bonjour. Donc, évidemment, la directrice de l'école m'appelle en me disant, venez vite chercher votre fils avant que tous les autres parents arrivent. Parce que là, ça va mal se passer. Donc, il a fallu faire un énorme travail psychologique sur mon fils.
Et il y a aussi un énorme travail, on le voit, vous avez passé 17 ans dans la rue, Anne, et même pour aménager votre appartement, alors vous êtes complètement...
Je suis perdue, moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, on me donne un mur, on me donne les 4 murs, hein, mais on me donne pas ce qui va avec. C'est-à-dire que j'ai pas pour faire à manger, j'ai rien, j'ai pas de lit, j'ai pas de meubles. Donc, et puis en plus, je sais pas comment faire pour rester dans l'appartement, donc je m'en sers au départ que comme un point d'eau chaude pour faire des douches pour les enfants, etc. Mais avec l'école, justement, on essaye de trouver un rythme. Parce que nous, c'est pareil, de se réveiller tous les jours à 8 heures, enfin, être à l'école pour 8 heures, pour nous, c'est impossible. On sait pas faire ça. On n'a pas de rythme, voilà. Donc, on essaye. Avec l'enfant, on apprend, en fait. On grandit avec lui. Et c'est toujours le cas. Je suis maintenant une grande ado avec mes ados.
Oui, parce que c'est la question aussi de Carole de Ouagadougou qui dit comment on peut se reconstruire, même difficilement. Donc, c'est vos enfants qui vous ont...
Moi, je me suis reconstruite avec mes enfants et pour mes enfants. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait des démarches pour être une mère à peu près acceptable. Donc, c'est-à-dire prendre des stages à la mairie pour faire les dossiers administratifs. Parce que moi, je ne sais pas remplir un papier des impôts. Je ne sais pas remplir un papier de la CAF. Donc, il a fallu qu'on m'apprenne. Il a fallu qu'il y ait des gens autour de moi qui me disent ben, « tu dois aller là, tu dois faire ça ». Voilà.
Et vous n'avez pas encore parlé de la peinture, parce que j'ai lu dans votre livre, en fait. Bah oui, que vous avez des talents, que vous peignez.
Je peins comme je dessine, c'est-à-dire que c'est une manière de m'exprimer. C'est une manière. J'ai toujours peint, toujours dessiné. J'ai des choses à sortir, donc voilà, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Après, j'ai de la chance d'être très bien entourée avec Minou et ses amis qui m'offrent des toiles et de la peinture et qui me permettent de faire des belles toiles. Voilà.
Y a-t-il des choses que vous n'avez pas écrites dans ce livre? Minou Azoulay.
Eh ben, si je ne les ai pas écrites, c'est qu'il ne faut pas les écrire. Non, ce que dit ouais. Anne, là, comment elle a appris à vivre en société, ça prouve quand même que ce sont deux mondes parallèles.
Oui, c'est très difficile. Les codes sont très, très difficiles.
On n'a pas les codes ni pour l'un ni pour l'autre. Mm. Qu'elle ne sache pas ce qu'on met dans un appartement, ça prouve que son cerveau a quand même été bien abîmé dès l'enfance. Ce qu'elle me racontait, c'est que sa chambre d'enfant, elle ne sait même plus ce qu'il y avait dedans. C'était plus une enfant, donc il n'y avait plus de chambre d'enfant.
Non, puis j'ai fait un blackout dessus. Non,
oui,
je ne sais
pas. Vous y retournez quand même toujours, enfin, dans votre chambre d'enfant régulièrement quand même.
Non, parce qu'ils ont déménagé.
Oui, mais avant, ils ont gardé longtemps leur pavillon, vous retrouvez votre chambre qui n'a pas bougé, et là, ça vous.
Oui,
ça
mais non, mais j'arrive plus à rentrer dedans. Ouais, non, c'est clair, j'arrive pas à rentrer dedans, mais. Ouais. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, Minou me demandait souvent quand on écrivait le livre, souviens-toi, mais moi j'avais un blackout, je ne me souvenais pas, j'ai une mémoire traumatique qui avait tout effacé. Et à fur et à mesure qu'on écrivait, il y avait des choses qui arrivaient, mais c'était plus de la violence qui arrivait, des choses comme ça. Mais pour de là trouver des détails d'une chambre rose de princesse, jamais quoi. Voilà.
Quand on voit alors une femme SDF aujourd'hui dans la rue, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Je sais pas, Claire Lajoni, il y a beaucoup de témoignages ici. Comment on peut leur apporter? De quoi elles ont besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Des trucs de filles, encore une fois, c'est-à-dire que la crème pour la peau, la crème pour les mains, du parfum. Parce que moi, toutes, elles m'ont quand même bluffée sur leur hygiène. C'est-à-dire qu'elles trouvent toujours une façon pour se laver. Enfin, moi, toutes les femmes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, elles m'ont bluffée pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elles ne se lavent pas tous les jours. Mais en revanche, c'est vraiment quelque chose qui les maintient à la vie et qui fait que la dignité reste. Donc, on va au bain-douche municipal. Il y a les mobiles douches, qui est une association d'un petit mobilhome qui se promène
c'est
et qui bien, permet.
On Rantica.
Bah oui, ils sont formidables parce que grâce à eux, on peut se
on
laver.
On va vite expliquer ce que c'est. Mobile douche, c'est une association. Donc c'est une femme qui a vécu des choses difficiles et qui a construit, qui achète des camping-car au nom de son association et qui les transforme en douche et avec un coin où on peut prendre un café. Vous avez fait la maraude, je crois que vous savez. Donc voilà, c'est que le camping-car se promène dans les rues de Paris et va voir toutes les femmes ou hommes d'ailleurs, hein, et leur propose de prendre une douche. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant parce que moi, quand j'étais dans la douche, quand j'étais dans la rue, j'aurais adoré trouver ça, parce que chaque fois que je vais revenir sur la violence, mais quand on se fait violer par un homme, qu'est-ce qui reste sur nous? Il reste la trace de l'homme, et on n'a qu'une envie, c'est de l'enlever. Pour enlever ce traumatisme, et on peut pas parce que on a rien pour se laver et se laver dans des bains municipaux. Alors après, moi je sais pas, on n'a pas vu les mêmes personnes, mais moi je me suis fait violer dans un bain municipal, donc voilà. Et il peut y avoir justement, quand j'ai fait la maraude de mobile douche, je parlais avec une femme qui me disait, ben moi tous les matins je vais dans un parc de Paris où là ils mettent de l'eau, mais là je suis obligée de me déshabiller. Et automatiquement, elle se fait attraper par les hommes. Donc, l'hygiène est très difficile.
Merci beaucoup, Anne Lorient. On peut retrouver effectivement votre témoignage où vous racontez tout de cette histoire, très avec beaucoup de sincérité, avec la plume aussi de Minou Azoulay. Donc, Mes années barbares, ça s'appelle, c'est chez La Martinière. Claire Lajeuny, également votre livre, hein, Sur la route des invisibles aux éditions Michelon, et votre documentaire, Femmes invisibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé et réalisé cette émission. Raphaël Montoux, Camille Véran et Mathieu Salabert. Demain, on change de lieu. Hein. On va direction la plus grande ferme de France. Nous serons en direct du Salon de l'Agriculture. Agriculteur, est-ce un métier d'avenir? Écrivez-nous sur Facebook. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 deux fois. Mondoblog.